Alors ce matin, nous allons partager sur quelques clés pour marcher dans le meilleur de Dieu dans nos vies.
Kano gatondo turasangira kubijanye n'imfunguzo zimwe na zimwe zizodufasha kugendera mu byiza bya mbere by'Imana.
Et vous allez découvrir qu'il y a un meilleur de Dieu.
Boraza kubona yuko hariho ibyiza
dans lequel vous pouvez vivre.
Imana igomba ko tubamwo.
Et que ça va être votre choix de vivre dans le meilleur de Dieu ou dans le moins bon, c'est-à-dire dans la limite que vous laissez à Dieu de vous bénir ou pas.
Kandi ibyo navyo ni uguhitamwo ku muntu wese gushobora kubaho mu byiza bya mbere cyangwa mu bibaye abaye Imana ishobora gutanga.
Nous allons commencer par un texte dans Ésaïe chapitre 1 au verset 19.
Reka dutangure dusoma muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 19.
Un texte que nous connaissons tous assez bien.
N'igice nibaza ko abatari bake muri twebwe tuzi.
Et qui va me permettre d'introduire mon sujet ce matin.
Kiza gutuma ntangura kuvuga kubijanye n'ibyo nateguye kuvuga muri kano gatondo.
Je vais vous montrer un certain nombre de principes du royaume de Dieu.
Kuko ndagomba kupereka amategeko amwe amwe agenga ubwami bw'Imana.
Ésaïe chapitre 1 verset 19 nous dit si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays.
Yesaya 1:19 ngo nimwemera mukumvira muzogya ibyiza byo mu gihugu.
Si vous vous décidez pour l'obéissance.
Nimwemera mukumvira.
On va lire un autre texte dans Deutéronome chapitre 28 versets 1 et 2. Nous sommes très familiers aussi avec ce texte.
Reka twongere dusome mu gisomwa cyo gusubira mu byagezwe igice cya 28.
Deutéronome 28, nous savons que c'est la bénédiction et la malédiction de la loi.
Gusubira mu byagezwe 28 batubwira iby'imivumo n'imigisha y'ibyagezwe.
Et je vais vous montrer ici un principe important qui vous évitera de perdre votre temps souvent avec des prières inutiles.
Reka ndabereka itegeko rimwe ngaha rizobabuza gusenga amasengesho abatesha umwanya akanatagira icyo ashikako.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des prières inutiles.
Kuko hari abantu benshi basenga amasengesho ataca bashikana.
Pourtant, ils sont nés de nouveau, même remplis du Saint-Esprit.
Ugasanga baruzuye umuhemu yera baravuze ubwa kabiri.
Et qui prient des trucs qui ne percent pas le ciel.
Ugasanga amasengesho basenga ariko ntamene
ijuru. Et pourtant, ils en ont même la voix cassée quand ils ont prié ce genre de choses.
Ariko agasenga kandi agasarara mbere aragashiramo n'amarira.
Juste une parenthèse, c'est pas la tonalité de ta voix et la puissance de ta voix qui permet d'aller au ciel ou pas.
Reka ndagucindagacishe.
Que ta prière aille au ciel ou pas.
Nakubwire yuko gusenga ukankama canke uvuga cyane sivyo bituma isengesho ryumvigwa.
Regardons ensemble Deutéronome 28 verset 1 et 2.
Gusubira mu byagezwe 28:1-2.
Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu.
Boni mwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu. Mukitondera ibyagezwe byiwe byose mbagera uyu munsi mukabishitsa Uhoraho Imana yanyu. Azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mwisi kandi iyo mihezagiro izobaza ko ibashikire nimwumvira Uhoraho Imana yanyu.
Qu'est-ce que vous remarquez dans les deux textes déjà que nous avons lus?
Ibi bice bibiri duhaje gusoma mubona havuga iki
cyane? Il y a des mots qui sont communs.
Hari amajambo tubona hose.
Le premier mot, première préposition c'est le si.
Ijambo rya mbere tubona ngo nimwumvira ni.
Et c'est toujours des conditions, ça s'appelle du conditionnel.
Urabona ko hariho ikintu kibanza gusabwa.
C'est-à-dire que si cette condition est remplie, alors voilà ce qui va se passer.
Bivuga ngo iki kintu nicumvigwa raba ibizoca bikurikira.
Si vous vous décidez pour l'obéissance, si vous êtes docile dans d'autres versions, dans Ésaïe 1.
Ngo nimwagira umwete, kandi bavuga ngo nimwumvira nimwemera mukumvira.
Si tu obéis.
Ngo nimwumvira nimwagira umwete wo kumvira.
Alors. Les informaticiens, c'est très simple ça, c'est des trucs, hein, les diagrammes là, avec les conditions comme dans la programmation, c'est tellement facile. Si telle condition est remplie, alors. Sinon, il se passera ça.
Vous
savez, c'est très simple, Dieu est le Dieu qui a le plus de logique. Regardons maintenant Jean chapitre 15, verset 7.
Reka turabire hamwe Yohana 15 umurongo w'indwi.
Jean 15 verset 7.
Yohana 15 umurongo w'indwi.
Un verset aussi que nous connaissons bien ici dans cette église.
N'uyu nawo ni murongo, n'umurongo tuzi cyane muri ishengero.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno.
Là encore, on a du conditionnel. En revenant au texte d'Ésaïe, chapitre 1, verset 19, La Bible est claire, elle dit, si vous avez la bonne volonté, que vous êtes docile, si vous êtes obéissant, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous savez qu'on peut marcher dans le meilleur de Dieu, où on peut limiter la bénédiction de Dieu dans nos vies. Donc marcher dans le moins bon de Dieu, c'est-à-dire Dieu a tout un package pour nous, mais finalement on peut en profiter que d'une partie. Et ça il faut le savoir, c'est important. Un jour il y avait un serviteur de Dieu qui priait, et le Seigneur lui montrait qu'il n'était pas dans une certaine obéissance qu'il lui avait demandée. Il était dans un ministère, mais Dieu le voulait dans quelque chose d'autre.
Et
il marchait dans la volonté permissive de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens font des choses et disent, si c'est la volonté de Dieu, ça va réussir. Non,
ce
n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Je fais ça, je décide ça, je désire ça, et si c'est sa volonté, ça va aller. Avec ce genre de mentalité, tu n'iras pas loin, je te garantis. Tu ne marcheras jamais dans le meilleur de Dieu. Parce que tu es en train de mettre ta volonté au-dessus de la volonté de ton Père. Et Dieu ne peut te bénir à ce moment-là que d'une façon limitée, parce que tu limites sa bénédiction. Et c'est le problème de beaucoup de gens. Ils ne comprennent pas qu'ils peuvent marcher dans le meilleur de Dieu, mais ils peuvent aussi limiter la bénédiction de Dieu, donc de marcher dans le moins bon de Dieu, entre guillemets. Et la Bible nous dit clairement que c'est notre responsabilité de marcher dans le meilleur de Dieu. Vous pouvez faire tout un tas de prières.
Oui,
je vous montrerai tout à fait des prières types tout à l'heure. Vous pouvez faire des choix, vous pouvez faire des prières. Et vous verrez que ça ne vous mènera pas dans le meilleur de Dieu. Si vous ne savez pas comment marcher dans le meilleur de Dieu. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Des chrétiens qui prient, on en trouve beaucoup. Des chrétiens qui font des choix, qui font des choses, qui disent faire des choses pour Dieu. On en rencontre une multitude. Le problème, c'est que la plupart du temps, ce ne sont pas des gens qui nous a la connaissance, l'obéissance. Donc on va parler d'un certain nombre de clés. On
ne
peut pas les voir toutes, mais on va voir un certain nombre de clés qui vont nous permettre de comprendre comment marcher dans le meilleur de Dieu. Parce qu'il y a des clés qui sont importantes qui vous permettront de découvrir et de marcher dans le meilleur de Dieu. Nous avons vu, on va retourner dans le texte d'Ésaïe 1.
Ésaïe
chapitre 1. Et je vais vous le relire dans la version que j'ai, qui est une meilleure version. Si vous vous décidez pour l'obéissance, la plupart d'entre vous, c'est si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile. Mais la meilleure traduction serait si vous décidez pour l'obéissance. Si vous décidez d'obéir. Vous ne pouvez pas obéir à quelqu'un si vous ne savez pas ce qu'il attend de vous. Réfléchissez à cela 30 secondes. Vous ne pouvez pas obéir à quelqu'un
Si
vous ne savez pas ce qu'il attend de vous.
C'est-à-dire,
si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas sa volonté, ses désirs. Par exemple, si vous avez un boss, et puis vous agissez comme ça, vous travaillez, si vous n'avez pas connaissance de ses instructions, de ses ordres, il peut descendre, vous voir, et dire, mais pourquoi tu fais ça comme ça? C'est inacceptable. Tu n'es pas un bon employé. Et tu pourras lui dire, mais patron, je ne connais pas vos instructions. Si vous n'avez pas connaissance de ces instructions, vous ne pouvez pas faire ce qu'il vous demande. Et une des choses que Dieu nous demande, c'est de connaître ses instructions. L'obéissance commence d'abord par la connaissance de ce que le supérieur veut. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans nos vies. Et on va en parler. Parce qu'il faut que vous appreniez à connaître la volonté de celui que vous servez. Celui qui vous a sauvé. Celui qui est votre Dieu et votre maître. Si vous ne savez pas ce qu'il attend de vous, vous allez faire des gaffes. Et on fait des fois des gaffes par ignorance. Des fois on fait des gaffes par rébellion. C'est la deuxième partie qu'on étudiera aussi. C'est d'apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu. Si vous voulez marcher dans le meilleur de Dieu, vous devez avoir cette connaissance de ce qu'il attend de vous. Et ensuite, vous devez apprendre à vous soumettre à ce qu'il attend de vous. À obéir à ses ordres. Et ça, on verra que c'est un choix. Donc, nous allons étudier à propos de la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec cela et qui ne comprennent pas bien. Il faut que vous compreniez que concernant la volonté de Dieu, Dieu voit les choses et a classifié les choses en deux groupes. Le premier groupe de volonté de Dieu, vous le trouvez dans la parole de Dieu. C'est vraiment l'obéissance fondamentale de tout chrétien né de nouveau. La parole est mon guide numéro un. C'est pour ça que je dois connaître la parole. Je dois étudier la parole. Je dois être instruit dans la parole. Je dois méditer la parole. Je dois pratiquer la parole. Je dois parler la parole. Tout ça, ça fait partie du groupe numéro 1 des instructions de Dieu. Et entre autres, c'est pour ça que Dieu a donné l'Église. L'Église locale, les ministères. Pour que la parole soit parlée, soit enseignée, soit prêchée. C'est pour ça qu'on doit se retrouver ensemble. Et qu'on est soumis à des ministères. Des personnes qui ont reçu une onction d'un des cinq ministères. C'est pour ça que chaque chrétien doit être dans une église locale, doit avoir un responsable, un pasteur. Doit se reconnaître quelque part. Parce que c'est là où on reçoit principalement les instructions de la parole. Au travers de la prédication, au travers de l'enseignement. Et ça, ça fait partie de la volonté générale de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous demande dans sa parole que nous devons connaître et dans lesquelles nous devons obéir. Ça fait partie d'une des grandes, je dirais, d'une des grandes obéissances que nous devons faire pour être dans le meilleur de Dieu. Et là-dessus, on ne peut pas discuter. C'est pour ça qu'un chrétien doit être un chrétien de la parole. Un chrétien qui a la connaissance de la parole.
Un
chrétien qui veut la parole.
Un
chrétien qui pose des questions sur la parole. Un chrétien qui constamment se dit, mais cette parole me donne des dimensions nouvelles sur Dieu. Et ça, c'est la volonté générale qui est commune à chacun d'entre nous. Si tu veux marcher dans le meilleur de Dieu, déjà, numéro un, tu dois connaître la parole, obéir à la parole et marcher dans la parole. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour chaque chrétien. Maintenant, la deuxième chose qu'il va falloir que tu apprennes à faire dans ta vie spirituelle, c'est à découvrir la volonté spécifique de Dieu ou ta destinée, c'est-à-dire ce que Dieu a pour toi personnellement. La parole nous donne le tronc commun de la volonté de Dieu pour les enfants de Dieu. Maintenant, ce que le Saint-Esprit va te dire au long de ta vie, cette volonté spécifique est quelque chose que tu devras découvrir. Que Dieu veut te révéler. Et on va en parler. Parce que si tu veux marcher dans le meilleur de Dieu, il va falloir que tu comprennes certains principes sur la découverte de la volonté de Dieu dans ta vie.
Et
un certain nombre de choses qui sont indispensables à connaître dans ta vie et dans lesquelles tu ne peux pas dévier. Alors, la Bible nous dit quelque chose, c'est Jésus qui parle dans Jean chapitre 16. Et Jésus nous donne quelque chose d'absolument extraordinaire. Dans Jean 16-13, Jésus va nous donner une parole absolument fabuleuse. Une parole qui est une vérité pour nous, les chrétiens nés de nouveau. Et si jamais cette vérité n'existait pas, je vous garantis, nous serions bien embarrassés et bien gênés dans nos vies. Il va nous montrer un immense privilège. Quelque chose auquel vous devez faire extrêmement attention dans vos vies. Quelque chose de tellement précieux que si vous ne l'avez pas ou si vous le mettez de côté dans votre vie, vous êtes foutu. C'est ce que Jésus va nous dire dans ce verset. Il va nous dire quand il sera venu, l'Esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il vous conduira littéralement, vous guidera dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Si tu veux marcher dans le meilleur de Dieu, il va falloir que Dieu te révèle une partie de ton avenir, sa volonté pour ton avenir. Et ça, c'est fondamental dans nos vies. Vous savez, les hommes se posent beaucoup de questions sur leur avenir. Il y a beaucoup de choses que des gens cherchent pour connaître leur avenir. Les inconvertis vont consulter des sorciers parce qu'ils ont peur du lendemain. Des gens vont consulter des esprits de divination.
Ils
cherchent leur futur dans les étoiles.
Ils
veulent que des voix leur parlent à propos de leur avenir proche. Combien de présidents qui vont faire des élections vont voir des sorciers pour demander aux sorciers, est-ce que c'est moi qui vais être élu? Vous savez que c'est très courant, ça? C'est très courant. Plein de gens vont consulter des esprits sataniques pour essayer de connaître qu'est-ce qui va se passer dans le futur, pour essayer de trouver la bonne personne pour être heureux en amour, de la faire venir par des puissances spirituelles, d'essayer de mettre des protections sur leur business. Toutes sortes de trucs bizarres sataniques. Parce que l'homme a peur de son lendemain. En tout cas, l'homme qui ne connaît pas Dieu a peur de son lendemain. Mais je dois dire qu'il y a des chrétiens qui ont peur de leur lendemain. Et qui vont essayer de prier des trucs. Pour essayer de savoir, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer demain? Seigneur, qu'est-ce qui va se passer si je vois un tel? Mais Dieu a beaucoup plus que ça. Dieu veut te révéler des choses à venir pour ta destinée. Pour que tu aies les plans, les directions, que tu puisses prendre et être sûr de réussir avec lui. C'est-à-dire que Dieu va te révéler un certain nombre de choses. Et d'après cela, tu vas prendre des décisions qui vont t'amener à aller dans les directions divines. Et là, tu pourras marcher dans le meilleur de Dieu. Non pas en interrogeant Dieu, en disant, Dieu, je voudrais savoir ce qui va se passer demain, puis après-demain, puis après-après-demain. Mais tu vas apprendre à marcher par la foi en étant sur ton territoire, et on va parler de territoire tout à l'heure, et en comprenant comment le plan de Dieu peut marcher dans ta vie. Parce que si tu veux marcher dans le meilleur de Dieu, il va falloir que ce plan futur pour ta vie soit révélé d'abord. Et ensuite que tu ailles pas après pas, phase après phase. Étant à l'école de Dieu, où tu as une responsabilité, où tu vas prendre des directions, où tu vas former ta destinée petit à petit, et Dieu va t'amener dans de nouvelles phases jusqu'à temps que tu puisses réaliser ce que Dieu a prévu pour toi. Sinon tu ne seras jamais dans le meilleur de Dieu. Tu vas marcher à 0,01% du meilleur de Dieu dans ta vie. Et si tu veux vraiment marcher à un maximum de pourcents dans ta vie du meilleur de Dieu, eh bien, il va falloir que tu comprennes un certain nombre de choses à propos de la volonté de Dieu. Regardons ensemble Colossiens chapitre 1. Paul nous donne quelque chose qui est très important à propos de la volonté de Dieu. C'est un verset que j'aime beaucoup. Parce que beaucoup de chrétiens ont des questions. Vous savez, la prière est quelque chose qui souvent est mal compris avec les chrétiens. La prière est principalement une communication avec Dieu. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens voient la prière comme un monologue, c'est-à-dire c'est eux qui parlent. Seigneur, tu vois, Seigneur, je veux, Seigneur, je te demande, Seigneur, bénis, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et il y a des gens qui passent des heures et des heures et des jours et des jours et des jours dans un monologue. Ils sont tout seuls à parler. Ça, pour parler, il parle, même il crie. Il manifeste toutes sortes de sentiments envers Dieu. Il prie, alors il demande quelque chose au Seigneur.
Et puis après,
il commence à se mettre à crier très fort. Et au bout d'un moment, ils en ont marre. Ils disent, Seigneur, pourquoi tu ne m'écoutes pas?
Amaze kurira akabona ntibije ngo mana kwereka utanyumva narize.
Ça, c'est pas de la prière. Ça, c'est un monologue. Ça, c'est des choses que tu racontes à Dieu.
Il y a aussi sengesho ni ukubwira gusimana wahubwo muvuga gusimana ikakumviriza.
Il y a quelque chose de fondamental dans votre vie de prière que vous devez saisir.
Hari ikintu gikomeye cy'urufatiro ku buzima bwacu
bw'amasengesho. La prière, bien sûr, c'est de dire des choses à Dieu, de demander des choses à Dieu.
Ego gusenga ni ukubwira Imana.
Mais Dieu aussi doit te parler.
Ariko reka nkubwire ko mu gusenga Imana nayo ivugana nawe.
Alors déjà, si tu comprends ça, c'est que tu comprends déjà plus de choses.
Niwa bitahura ibintu intambwe ikomeye kugira ngo umenye gusenga neza.
Mais c'est pas seulement cela.
Ariko si ibyo gusa rero.
C'est vrai que tu vas communiquer avec Dieu.
Nibyo
wewe parler.
Urabwira Imana.
Il va te parler aussi.
Nayo ikavugana nawe.
Mais là encore, il faut que tu saches écouter dans le sens d'entendre sa voix.
Urumva nganaho birasaba yuko wiga kumviriza icyo Imana ikubwira.
Mais il y a pas seulement ça.
Ariko ntibigarukiraho kandi.
Il y a aussi une compréhension.
Hacha habaho no gutahura.
Vous avez jamais été avec quelqu'un par exemple de super éduqué?
Sinzi kurahagarana cyangwa ukicarana
n'umuntu. Et puis vous parliez avec cette personne?
Umuntu yize cyane mukaganira.
Et puis il vous raconte des trucs à propos de je sais pas sa profession, quelque chose de très pointu en technologie.
Ugasanga ariko muri ko muraganira kubwira ibintu bikomeye cyane by'ubuhinga
bwinshi. Ou des termes juridiques très compliqués, puis supposé vous avez jamais étudié quoi que ce soit au niveau juridique.
Cyangwa muganira n'umucamanza cyangwa wize amateka akubwira ibya gasambura manza n'ibiki byose
udatahura. Vous êtes là, par exemple, vous allez voir quelqu'un, vous consultez quelqu'un, un expert, quelque chose.
Ufate ugiye kuraba umuntu w'umuhinga
nyine. Vous arrivez, vous avez très peu de connaissances.
Uri ngaho uzi
vous lui présentez votre problème, vous lui parlez, vous avez des demandes, et puis cette personne, du haut de son grand doctorat ou de ses 10 doctorats, commence à vous exposer dans des termes que vous ne comprenez pas. Et puis comme vous n'avez pas envie d'avoir l'air trop bête devant lui, vous faites
hanyuma kimwe ku kindi kubera ko utagomba ko umusubiza inyuma kandi udatahura.
Et puis vous sortez du bureau et vous étiez avec un ami, vous dites, t'as compris ce qu'il a dit? Et t'as rien compris parce qu'il utilise des termes que tu ne connaissais pas. Pourtant il y a eu une sorte de dialogue là, mais il n'y avait pas de compréhension. On n'était pas au même niveau, il n'y avait pas de compréhension. La Bible va nous dire dans Colossiens 1 verset 9 quelque chose d'important. Paul priait quelque chose pour les Colossiens. Il disait, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Juste donc la connaissance de sa volonté.
Vous
voyez, le verset ne s'arrête pas là. Donc, ça fait partie d'une des prières que tu dois faire à Dieu. Et celle-là, tu peux la répéter, crois-moi. Seigneur, je voudrais connaître ton plan pour ma vie. Seigneur, quelle est ma destinée? Seigneur, montre-moi ce que tu as pour moi. Seigneur, je dois prendre telle ou telle décision, mais j'ai vraiment besoin de savoir ta volonté. Seigneur, je ne veux pas m'engager dans telle ou telle relation ici parce que je veux connaître ta volonté avant. Là, tu consultes Dieu. Et c'est une bonne prière. Tu peux faire ça pour différentes décisions. Il y a des moments dans ta vie où tu dois prendre des virages, où tu dois changer de direction. Mais bien avant de le faire, avant d'arriver au carrefour, arrête-toi au feu rouge.
C'est
pas comme au Burundi, le seul fois où on achetait un feu rouge, il a été cassé et tout le monde le grillait. Arrête-toi. Mets-toi devant ton Seigneur. Et tu dis, Seigneur, je veux savoir ce que tu as comme volonté pour ça. Mais après, Paul rajoute quelque chose. Quelque chose qui est fondamental pour votre vie. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Il
ne
dit pas seulement prier, donc tu pries, tu demandes. Que vous soyez rempli de la connaissance de la volonté, c'est-à-dire que Dieu va vous parler sur sa volonté. Mais il dit en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est-à-dire que quand le Seigneur vous a parlé, que vous puissiez comprendre ce qu'il vous dit, la façon de Dieu, pas de ta façon. Parce que souvent, c'est le problème que nous rencontrons. Nous mettons l'interprétation sur ce que Dieu peut nous dire.
Et
croyez-moi, ça nous pose beaucoup de problèmes. C'est une grande source de problèmes. J'ai vu beaucoup de gens louper leur destinée à cause de ça. Ils avaient demandé à Dieu, ils s'étaient placés devant Dieu en disant, Seigneur, vraiment, je veux faire ta volonté. Montre-moi ce que tu as pour ma vie. Et Dieu leur avait parlé. Clairement. Sans aucun doute, c'est Dieu qui leur avait parlé. Mais ils n'ont pas eu cette sagesse et intelligence spirituelle. Ils n'ont pas été plus loin que dire, Seigneur, le Seigneur m'a dit que. Et ça, c'est très bien. Dieu parle. Il parle à notre esprit.
Il
met les choses dans notre esprit parce que je vous rappelle que vous êtes nés de nouveau. Et le Saint-Esprit habite en vous. Et vous avez cette capacité surnaturelle à entendre la voix de Dieu et que tout ce qui vient de votre esprit est parfaitement en accord avec Dieu. Tout ce qui vient de ton cœur, tu es sûr d'une chose, c'est que ça vient de Dieu. Tout ce qui vient de ta tête, là, fais attention.
Fais
très attention. Parce que si ta tête n'est pas influencée ni par la parole, ni par ton, l'Esprit Saint qui est en toi, là, tu peux mettre des interprétations qui t'amèneront à aller au naufrage. Donc Dieu nous dit d'avoir cette sagesse et intelligence spirituelle.
C'est-à-dire
d'abord de comprendre comment la volonté de Dieu fonctionne dans nos vies. Ensuite, savoir appliquer, parce que l'intelligence, c'est la compréhension comment Dieu fonctionne, pas comment toi tu vois les choses. Mais comment lui, il voit les choses. Et la sagesse, ça va être de savoir appliquer dans le temps cette connaissance révélée. Donc d'abord, tu dois comprendre comment Dieu fonctionne, c'est-à-dire comment il t'a parlé de cette façon-là, d'accord, mais qu'est-ce qu'il entend par là? Ensuite, il faudra que tu mettes en application. Étape après étape, phase après phase, ce que le Seigneur va te montrer et continuera de te montrer. Jésus a dit à plusieurs reprises dans les évangiles et s'est répété dans l'Apocalypse une petite expression que j'aime bien utiliser, c'est dans Matthieu 13, verset 9. Matthieu
13:9,
qui explique tout à fait ce que je vais vous illustrer ici. Il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça veut dire que tu peux très bien entendre ce que le Seigneur t'a dit, dans le sens d'entendre avec tes oreilles spirituelles. Mais tu peux ne pas comprendre ce qu'il t'a dit.
Et
il y a une grande différence entre entendre ce que le Seigneur va te dire quand le Seigneur te parle et comprendre ce qu'il t'a dit. Et il y a beaucoup d'incompréhension de la part des enfants de Dieu. Ils entendent la voix de Dieu quand ils sont disposés à l'entendre. Mais souvent, ils ne comprennent pas comment Dieu a dit les choses. Dieu dira dans Ésaïe que ses plans ne sont pas nos plans. Et ses voies, c'est-à-dire la façon dont il voit les choses et qu'il veut que nous les appliquions, ce n'est pas ce que nous voyons et comment nous voulons appliquer les choses. Et ça, j'ai vu que c'était une grande source, l'incompréhension de ce que Dieu nous a dit.
C'est
une immense source pour que des gens marchent dans le moins bon de Dieu. Les personnes limitent complètement le potentiel que Dieu est en train de mettre en eux. Alors maintenant que vous avez vu ce principe, on va voir que quand Dieu nous révèle un certain nombre de choses, qu'on commence à comprendre ce qu'il attend de nous, il va y avoir des choses très centrales qui nous permettront de marcher dans le meilleur de Dieu. Une, c'est l'importance de comprendre que nous devons rester sur le territoire de notre destinée. Il y a beaucoup de prières et beaucoup de sueurs que tu vas t'éviter. Beaucoup de travail inutile et qui ne porte aucun fruit, ce qu'on appelle des œuvres mortes. Qui te sera évité et épargné si tu comprends comment et où tu dois rester. Vous savez, à propos des œuvres mortes, la Bible parle des œuvres mortes. Et souvent, on pense que bon, on faisait des œuvres mortes quand on était un converti. Une œuvre morte, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous implique, on fait des choses et on pense que c'est pour Dieu et en fait, ça n'est pas pour Dieu. Ça, c'est par exemple les gens qui sont religieux. Ils font tout un tas de trucs pensant que ça va plaire à Dieu et en fait ça ne plaît pas à Dieu, Dieu n'en a rien à faire. Mais les gens sauvés aussi font beaucoup d'œuvres mortes. Vous allez me dire comment ça? Moi je fais des bonnes choses et je prie, donc c'est des œuvres que Dieu approuve. Je pense que tu as mal lu la parole de Dieu. C'est pas parce que tu fais quelque chose de bien que tu as décidé ou que tu as interprété et que tu pries que c'est une œuvre divine.
Ah,
ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Il y a un espace dans lequel Dieu veut que tu évolues. Un territoire dans lequel tu pourras marcher dans le meilleur de Dieu et sans lequel, en dehors duquel, tu ne pourras jamais marcher dans le meilleur de Dieu. Je vais vous montrer le bénéfice de cela. Il est très important d'être à la bonne place au bon moment et à faire la bonne chose. Vous savez, parfois, pendant des années, on fait des choses qui paraissent insignifiantes. Mais on sait que c'est exactement ce que le Seigneur nous a demandé à ce moment-là. Et tant que Dieu ne nous demande rien de plus, tu ne bouges pas, tu es fidèle, tranquillement tu fais ce que le Seigneur te demande.
C'est
pas éclatant, les gens ne te voient pas, mais tu sais que tu es au bon endroit au bon moment à faire la bonne chose. Tu es sur ton territoire. Pour l'instant la bénédiction ne paraît pas éclatante, mais je te garantis que si tu continues à faire ça tant que Dieu ne te dit pas de bouger, tu es en train de préparer quelque chose d'absolument extraordinaire dans ta vie. problème souvent, c'est qu'on veut bouger là où Dieu ne nous a pas dit encore de bouger. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je vais vous montrer un certain nombre de principes sur le territoire de destinée. Quand Dieu t'a montré ton espace, là où tu dois commencer à évoluer, ça va être un espace de bénédiction, un espace d'épanouissement, un espace de prospérité et un espace de sécurité. On va parler, et j'espère qu'on aura le temps, à propos de vivre dans la sécurité divine. Quand il y aura le tribunal de Christ, je vous rappelle que ça sera pendant la tribulation dont nous serons au ciel. Pendant 7 ans, il y aura la tribulation ici sur la terre. L'église de Dieu sera au 3e ciel. Et chacun d'entre nous, nous passerons devant le jury de récompense. Dieu ne verra que les œuvres que tu as faites selon sa volonté et son le territoire de ta destinée. Toutes les autres œuvres, aussi bonnes te paraissaient-elles, seront considérées comme des œuvres mortes pour Dieu et il ne les considérera absolument pas. La Bible nous dit que Dieu mettra le feu à l'œuvre de chacun. Et tout ce qui est en chaume, en paille, en bois, tout ce qui est brûlable, disparaîtra, en fumée. Et ce qui restera, bien sûr, c'est ce qui est de l'or, de l'argent, c'est-à-dire tout ce qui est précieux aux yeux de Dieu. C'est seulement sur la vision que Dieu nous aura donnée et le territoire qu'il nous aura donné que nous serons évalués et récompensés. Quand tu es sur ton territoire, c'est là où vraiment tu es à la vraie école de la foi. Beaucoup de gens ne comprennent pas que quand ils sont dans la volonté permissive de Dieu, qu'ils ne sont pas au centre de la volonté de Dieu, ils ne pourront jamais évoluer dans l'école de la foi. Quand tu es dans la volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire t'es chrétien né de nouveau, tu as pris des décisions, tu es parti dans tes directions, et tu demandes à Dieu de bénir ton affaire. Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas là où tu es à l'école de Dieu. Là, tu es à l'école de ta propre volonté. Et Dieu ne pourra pas utiliser cette école-là. Parce que c'est l'école de ta propre volonté. Ce n'est pas l'école de Dieu, tu n'es pas sur ton territoire. Donc Dieu ne peut pas te faire évoluer au niveau de la foi. La seule chose qu'il peut faire dans l'école de ta propre volonté, c'est d'arriver à te montrer que tout ce que tu es en train de faire est complètement inutile, c'est en dehors de sa volonté. Jusqu'à temps que tu sois tellement découragé que la seule porte de sortie que tu verras, ça s'appelle la repentance. Donc c'est pour ça qu'il est très important de réaliser là où nous sommes, pour rapidement revenir sur notre territoire. Vous marcherez dans le moins bon de Dieu à l'école et sur le territoire de votre volonté. Vous êtes en train d'accomplir des œuvres mortes. Vous êtes en train de faire des choses où vous spiritualisez, vous mettez Dieu dans votre boîte, mais Dieu ne peut pas entrer dans votre boîte parce qu'il est infini. Vous êtes en train de vous épuiser. Vous êtes en train de perdre votre temps. Vous êtes en train de prier inutilement. Parce que vous êtes sur le territoire de votre volonté. Une fois que tu reviens sur le territoire de ta destinée, voilà ce que tu vas trouver. Tu vas trouver de la bénédiction, le meilleur de Dieu. Nous avons un exemple avec Isaac.
Turabona akaruro kwitwa Isaka.
Isaac dans Genèse 26.
Muri tangiriro 26.
Ça illustre vraiment, vraiment, vraiment ce que je veux vous dire ici.
Jerekana neza ibi bintu nako ndababwira.
Isaac était sur son territoire.
We yari mu kirere Imana
imushaka. Le territoire de sa bénédiction au centre de la volonté de Dieu.
Yari mu kibanza ciwe aha Imana imushaka.
Et ce qui va se passer, c'est qu'il va rencontrer de l'adversité.
Hamicabaye nuko yisanze mu bimugwa.
Il va rencontrer une famine.
Habaye ikigoyi inzara.
La Bible nous dit, verset 1, il y a eu une famine dans le pays outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins. L'Éternel apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je te multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Voici les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. Ici, on voit Isaac est sujet à quoi ? À une famine.
Kuva kuri mwe gushaka kuri gatandatu turabona Isaka yatewe n'inzara.
Dieu lui avait dit sois là, il était là.
Imana amubwiye ngo guma aha.
Et d'un seul coup,
hanyuma mu kanya
gato, il y a une immense adversité, une famine.
Haza ikigoyi, haza inzara ikomeye.
Et quand vous êtes dans des terrains hostiles, il peut y avoir deux réactions.
Iyo rero uhuye n'ikirere kibi,
deux réactions négatives.
Habaho inyifato zibiri zishobora kuba mbi.
La première, c'est de partir.
Inyifato ya mbere ishobora kuba
guhunga. Tu es là où Dieu t'a demandé d'être.
Kuko uraho Imana yagusabye kuba.
Mais apparemment, il y a rien qui marche.
Ariko kabona menga nani kiko kirakoreka.
Pourtant le Seigneur t'a parlé.
Ariko Imana yavuganye
nawe. Il t'a dit sois là et il ne t'a rien dit d'autre.
Yakubwiye ngo baho nta kindi yongeye ko.
Donc la première tentation que tu vas avoir, c'est quoi?
Urumva ikintu cya mbere ushobora kugira ni iki?
C'est de partir d'un terrain hostile.
Ushobora kugomba guhunga kuva aho hantu.
Ça c'est le réflexe numéro 1 des êtres humains. Fuir devant la difficulté. Et vous savez, l'ennemi utilise ça souvent pour écarter les chrétiens de la volonté de Dieu vers la volonté permissive humaine.
Kenshi rero mwansi arabikoresha kugira ngo akure abakristo mu bugombe bw'Imana abajane pembeni mu bugombe Imana ishobora kwemera mu gataribwa atari ubwayo.
Et ça c'est extrêmement mauvais parce que tu t'écartes de ton territoire et tu seras pas béni.
Icyo ni kibi kubera ko uba wavuye mu kibanza cawe.
Abraham avait eu le même problème, c'est pour ça que Dieu prévient Isaac.
Aburahamu yari yahuye n'ico kibazo n'ico gituma Imana yagabije Isaka.
Et Abraham avait fui et il a failli perdre sa femme ce jour-là.
Aburahamu yari yarahunze ashikana ashobora no gutakariza umugore
wiwe. Ça a failli se terminer en catastrophe. Il a failli annuler toutes les promesses de Dieu pour sa vie. Et Dieu a prévenu Isaac parce qu'il ne voulait pas que Isaac fasse comme son père. La deuxième réaction négative qu'on peut avoir devant un terrain hostile, c'est le découragement. Et le découragement fait quoi? Le découragement anesthésie notre foi. Ça nous empêche de pouvoir voir le meilleur de Dieu dans nos vies. Il y a des pensées négatives qui viennent, des sentiments négatifs, des confessions négatives, des actions négatives. Et à ce moment-là, cela anesthésie notre foi. Maintenant, il y a une réaction positive devant un terrain hostile quand vous êtes sur votre territoire.
Verset
12, c'est de faire comme
Isaac.
Ce n'est pas parce que le terrain est hostile que Dieu te dit pars. Sache une chose, au centre de la volonté de Dieu, tu rencontreras des terrains hostiles. Et rappelle-toi, si tu sors de la volonté de Dieu, donc tu sors de ton territoire, alors là, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu. Tu marcheras dans le moins bon de Dieu, parce que Dieu ne pourra pas te bénir comme il voudra te bénir. Et souvent, c'est ce qu'on rencontre avec les chrétiens. Le terrain est hostile, je fuis. Pourtant, Dieu m'avait parlé, mais je suis confus. Le terrain est hostile, je suis découragé. Apparemment, ça ne devait pas être la voix de Dieu que j'ai entendue. Faites attention à ce genre de réaction. Parce que les circonstances et l'ennemi essaieront toujours de vous sortir de votre territoire de destinée.
Pourquoi?
Parce que c'est là où se trouve la bénédiction. Verset 12, il est dit, Isaac sema dans ce pays et récolta cette année le centuple car l'Éternel le bénit. La réaction positive que tu dois avoir au milieu du terrain hostile quand tu es dans ton territoire, c'est de ne pas t'occuper de l'hostilité, mais d'apprendre à continuer de semer. De semer des paroles, de semer des actions, selon ce que Dieu t'a demandé, de continuer d'obéir à Dieu, et de dire aux circonstances et à l'ennemi, ce n'est pas vous qui allez prédominer dans l'hostilité, mais même si ce terrain est désertique, Dieu en fera un oasis, Dieu transformera tout cela, mais pour cela, il a besoin de toi, et ça c'est ton choix. Ça, c'est ton choix, mon frère, ma
soeur.
La deuxième chose que tu vas trouver dans ton territoire de destinée, c'est la sécurité. La sécurité. Et vous savez, un homme, un être humain a besoin de se sentir en sécurité. Dans tous les domaines. Sécurité physique. Sécurité morale. Sécurité relationnelle, sécurité financière, toutes sortes de sécurités. On a besoin d'être, de vivre dans un environnement où il y a de la sécurité. Et ça, c'est normal. Quand on se sent insécure dans différents domaines dans notre vie, nous ne pouvons pas être productifs et nous ne pouvons pas vivre dans le meilleur de Dieu. Par exemple, si tu es insécure financièrement, c'est-à-dire tes finances sont une catastrophe constamment et depuis des années et des années, tu es dans l'insécurité financière, tu n'es pas à l'aise. Ça peut être relationnellement, tu peux être avec des gens avec qui tu n'es pas à l'aise. Ça peut être dans toutes sortes de domaines. Et quand tu es dans ton territoire de destinée, il y a une sécurité exceptionnelle. Il y a des choses surnaturelles qui sont mises en place autour de toi que tu ne vois pas parce que tu ne vois pas dans le monde invisible. Mais que tu dois apprendre à savoir, à connaître. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui prient des trucs inutiles. On parlait de prière inutile, on va en parler.
Encore.
Par exemple, ils sortent de la maison. Et alors ils disent au nom de Jésus, je chasse tous les démons qui viendront contre moi aujourd'hui.
Ça, ce n'est
pas des prières, c'est de la superstition. J'applique le sang de Jésus sur tous les endroits où je vais. Ça, c'est pas de la spiritualité, c'est de la superstition et de la stupidité. Je connaissais comme ça des gens. Ils ne pouvaient pas aller dans un endroit. Ils rentraient dans l'endroit. Ils étaient comme ça. Ici, il y a des mauvaises présences ici. On doit, avant d'entrer, il faut qu'on fasse le ménage spirituel. Vous savez, ce sont des gens qui se sentent insécurisés. Ils sont tout le temps, ils ont tout le temps peur de quelque chose, que quelque chose de mauvais leur arrive. Mon frère, si tu vis comme ça, ma soeur, si tu vis comme ça,
si tu
n'as rien compris au royaume de Dieu, tu n'as pas compris que tu es lumière, tu n'es plus ténèbres, tu es dans le royaume de Dieu et que tu as simplement besoin de mettre en place un certain nombre de choses dans ta vie dont les conséquences sera une sécurité divine sur toi.
Ça
va t'épargner bien des prières qui sont inutiles.
Quand tu
es au centre de la volonté de Dieu,
peut-être
qu'il va y avoir des tempêtes qui vont se lever.
Peut-être
qu'il va y avoir de l'opposition qui va venir, ça c'est normal. Si vous n'êtes pas convaincu, lisez les évangiles. Jésus n'a commis aucun péché, il n'a rien fait de mal. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont voulu attenter à sa vie je ne sais combien de fois. Regardez un exemple dans Luc chapitre
4.
Est-ce que vous ne pensez pas que Jésus était dans la volonté parfaite du Père? Jésus a été l'être humain qui a vécu dans la volonté la plus parfaite du Père
Céleste.
Et pourtant, il y a eu plein de dangers autour de lui. Plusieurs fois, on a voulu le mettre à mort. Une fois, c'était dans Luc 4, justement.
Luc 4.
Jésus était, donc, il venait de recevoir son onction. Et il va rentrer donc dans la synagogue. Là où théoriquement il y avait les gens les plus spirituels, hein, c'était là où ils se réunissaient. Les gens les plus spirituels d'Israël se réunissaient dans les synagogues. Les gens qui étaient supposés aimer Dieu le plus. Il n'était pas dans un endroit où il y avait des prostituées ou des soulards ou des gens qui faisaient des jeux d'argent ou je ne sais trop quel truc. Jésus était au milieu de gens qui priaient, qui lisaient les Écritures, qui essayaient de plaire à Dieu à leur façon. Et il va dire qu'il est loin. Il va lire le passage du prophète
Ésaïe.
Et là, il dit, je suis loin, etc. On connaît le passage. Et au verset 21, il est dit, alors il se mit à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage et admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-il pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, certainement vous me citerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capernaum, parce qu'il avait fait beaucoup de miracles à Capernaum, que nous avons appris, fais-le ici dans ta patrie. Il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Car la vérité que je vous dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur tout le pays. Et quand Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, mais cependant aucun d'eux ne fut purifié, si c'est Naaman le Syrien. En fait, tout le temps c'était des étrangers, c'était pas Israël qui bénéficiait de ça, parce qu'ils n'avaient pas un bon cœur. C'est ça que Jésus a voulu dire. Ils furent tous remplis de fureur, regardez verset 28, dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent cela, ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville, imaginez-vous, et le menèrent jusqu'à l'escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Vous pouvez lire le verset 29, s'il te plaît.
29, ngo bava hasi aho bavuye mu synagogue baramushika.
Qu'est-ce qu'on veut faire de Jésus? On veut le pousser d'une montagne et le faire mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait du mal?
Non.
Il était simplement en train de dire une vérité.
Une
vérité spirituelle. Il lui faisait des reproches. Oui, t'as qu'à faire les mêmes choses là. On t'a entendu dire là, t'as fait des choses dans le nord là. Montre-nous là tous les miracles ici. Et Jésus voyait bien que leur cœur n'était pas droit. Il leur a reproché. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Le mettre à mort. Mais regardez ce qui s'est passé, verset 30. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il y avait une foule, imaginez la scène. Ils étaient fâchés contre lui.
baramushavuriye
barashaka. La Bible nous dit qu'ils l'ont poussé hors de la synagogue.
Bamusunika
bamukora. Ils l'ont amené jusqu'en dehors de la ville. Imaginez une foule.
Isinzi bamutwara hijya y'igisagara.
Ils sont au bord du précipice.
Bashika kuri ya manga.
Ils se préparent, ils font un coup, ils veulent le tuer.
Bagomba kumwica, bagomba kumusunikira hariye.
Et la Bible nous dit qu'il va passer au milieu d'eux.
Biritubwira ngo acacha hagati yabarage.
Au milieu d'une foule qui était déchaînée contre lui.
Acha hagati sinzi ry'abantu bagomba kumwica.
C'était une protection surnaturelle ici.
Uko nukurindwa ko mu buryo bw'impwe.
Jésus a vécu un miracle de protection.
Yesu yabaye mu kurindwa igitangaza cyo kurindwa.
Pourquoi? Parce qu'il était sur son territoire.
Kubera iki yari mu kibanza cye.
Et quand es-tu sur ton territoire?
Iyo uri mu kibanza cawe.
Tu es intouchable.
Ukogwako.
Tu es intouchable. Quand tu es sur ton territoire, que tu as la connaissance de Dieu et que tu ne donnes pas d'accès au diable avec le péché, tu es intouchable. On peut essayer de te faire tous les coups possibles et imaginables.
Tu es
intouchable. Parce que tu es exactement au centre de la volonté de Dieu. Si tu connais la parole, je dis bien. Et si tu ne marches pas dans le péché, si tu ne donnes pas l'accès au diable, si dans tes mentalités tu ne fais pas n'importe quoi, alors tu es intouchable. Jésus va être à plusieurs reprises menacé justement par les juifs. Ils vont essayer, vous verrez d'autres passages. La Bible nous dira à plusieurs reprises que son heure n'était pas encore venue. Et quand tu es sur ton territoire, ton heure n'est pas encore venue. Donc n'essaye pas de te surprotéger avec des trucs bizarres. Des prières bizarroïdes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin, parce que ça ne m'arrive jamais de parler à propos de ce sujet-là, ou très rarement. Mais ne crois pas dans ces trucs superstitieux, ça ne t'amènera à rien. Marche dans la volonté parfaite de Dieu. Cherche sa face. Cherche là où Dieu te veut, au moment où il te veut. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place dans ta destinée. Il va y avoir beaucoup de choses que Dieu t'a dites qui vont se réaliser. Et ça t'évitera tout un tas de vies de prière, une partie de ta prière qui n'est pas scripturaire. Et tu vas vivre des choses exceptionnelles. Tu vas vivre des provisions surnaturelles. Tu vas vivre de la sécurité surnaturelle. Il y a beaucoup d'autres clés qu'on va étudier. Mais là, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Mais je vous garantis, quand vous êtes sur votre territoire, vous pouvez marcher dans votre vision.
Et
il va falloir apprendre les étapes de votre vision. Dieu va vous donner une vision dans laquelle vous devez marcher par étapes. Et vous devez réaliser les choses que Dieu vous demande. Si vous voulez être dans le meilleur de Dieu, il
n'y
a que son plan qui doit s'accomplir. Maintenant, la question est, est-ce que son plan va s'accomplir dans ta vie jusqu'à ton dernier jour à
0,1%,
à 1%, à 3%, à 5%, à 20%, à 50%
ou
plus? Est-ce que tu vas marcher dans le meilleur de Dieu? Ou est-ce que tu ne vas pas marcher dans le meilleur de Dieu? Le choix t'appartient.
Et
c'est pour ça que tu as intérêt à te mettre devant ton Seigneur. Et à reméditer Colossiens 1:9 que nous avons vu tout à l'heure. Afin que tu puisses vraiment être positionné là où tu dois être positionné. Ne te positionne pas là où Dieu ne te veut pas. C'est dangereux pour ta vie. C'est stérile. Ça va t'amener tout un tas de problèmes que tu n'aurais pas eu. Parce que tu n'es pas dans ton territoire, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Pourtant, tu peux désirer dans la volonté de Dieu avec tes propres idées, mais c'est
change
et apprends à te mettre au diapason de Dieu, à l'écoute de Dieu, à la compréhension de ce qu'il a pour toi. Nous allons prier ensemble. Je vous demande de fermer vos yeux, s'il vous plaît. Père, je prie pour ce peuple. Et je prie vraiment pour qu'ils découvrent comment marcher dans ton meilleur, Seigneur. Tu as le meilleur pour nous, Seigneur. Mais pour ça, tu nous demandes d'avoir un cœur obéissant.
Et
tu nous demandes de rechercher ta face pour connaître ta volonté. Nous voulons être dociles, Seigneur. Nous désirons courber notre volonté devant la tienne. Nous désirons entrer dans tes plans davantage. Père, je prie pour chaque personne ici. Chaque personne qui peut-être n'avait pas encore compris cette vérité. Je prie pour que chaque personne apprenne à entrer, Seigneur, dans le plan que tu as pour elle. Et d'abord à le découvrir. Père, je te remercie parce que tu vas aider chaque personne ici à découvrir ce plan, à avoir de la sagesse et de l'intelligence spirituelle, à marcher dans tes voies réellement, Seigneur, la façon dont tu veux faire les choses. Je prie vraiment pour que ce peuple soit un peuple obéissant, un peuple qui désire, Seigneur, l'obéissance. Parce que, Seigneur, mon cœur désire parce que ce peuple puisse marcher dans le meilleur que tu as
promis.
Afin, Seigneur, que nous ne voyons pas des vies ruinées alors que des gens t'ont donné leur vie, Seigneur. Que nous ne voyons pas des gens passer à côté du meilleur que tu as pour eux. Mais qu'ils réalisent ce meilleur. Et que leur vie soit épanouie, Seigneur. Pour qu'ils puissent porter les fruits qu'ils doivent porter. T'amener les âmes perdues qu'ils doivent amener, Seigneur. Être une bénédiction pour les autres quand ils prient. Être prospère à tous égards. Connaître vraiment, te connaître vraiment, Seigneur. D'une façon profonde. Alors que tout le monde a ses yeux fermés.